Y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Le cinéma aime s'inspirer des histoires vraies. Nous en aurons deux dans Cinérama aujourd'hui. Celle de Noce, film belge contraignant l'héroïne à un mariage forcé. Et puis Lion de Garth Davis avec un jeune indien qui retourne dans son pays 25 ans après. Manu, toi tu n'as pas d'histoire vraie.
Non, je vais m'éloigner du réel pour aller plutôt du côté du fantastique avec trois films. Cure for Life, Dans la forêt et puis je dirais un petit mot sur Seul.
Et puis, eh bien, nous aurons deux interviews, celle de Audrey Dana pour Si j'étais un homme, film qui sort le 22 février, et puis surtout, eh bien, celle de l'actrice de noces, Lina El Arabi.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Vous êtes là pour la cure ?
Non. D'ailleurs, j'allais repartir.
Personne ne repart jamais.
Les premiers plans urbains de A Cure for Life, hein, un immeuble pris en contre-plongée, sont sublimes, accompagnés d'une musique envoûtante, proche de la comptine, évoquant tout de suite la partition de Christophe Komeda pour Rosemary Baby de Polanski. Alors une référence lointaine, mais prégnante et jamais redondante. En tout cas, Gore Verbinski, hein, remis de son échec injustifié de Lone Ranger, revient par la petite porte avec une production relativement modeste, sans grande tête d'affiche, hein, avec une sorte de conte d'épouvante, jouxtant habilement l'ancien et le moderne, et gracinant au passage le système capitaliste, et ce, dès les 10 premières minutes, redoutablement efficaces. Alors là où il en fallait 3 à Scorsese pour Le Loup de Wall Street... D'ailleurs, Dan DeHaan, le comédien, rosse à défaut de Leonardo DiCaprio, hein, en plus juvénile, hein, le comédien révélé par l'excellent Chronicle et aperçu aussi dans Knight of Cups et The Place Beyond the Pine, s'y révélait patent en jeune loup arriviste, fragilisé par un douloureux passé. La parenté avec l'univers de Scorsese ne s'arrête pas là, puisque la suite rappelle énormément Shutter Island, avec une pincée aussi d'un film de Carpenter qui est L'Antre de la Folie. Alors donc, Lockhart, jeune cadre ambitieux, est envoyé en Suisse pour ramener son patron trempé dans des affaires compliquées. Il séjourne dans un mystérieux centre de bien-être dirigé par l'ambigu Vollmer. Alors bien-être, c'est un bien grand mot, car Lockhart va rapidement se rendre compte d'une évidence. Comme l'indiquait le dialogue au début, il est facile de rentrer dans cet institut, mais comment en sortir ? On n'en sort pas vraiment. Alors pourquoi ? La raison est à chercher du côté du traitement spécial délivré aux patients, à moins que l'étrange Anna, nymphe au regard triste, soit la clé de ce mouroir à glacer le sang.
Une maladie sommeille en nous. Elle monte comme la bile qui laisse ce goût amer dans notre arrière-gorge. Elle est en chacun de vous qui êtes ainsi à cette table. Ce n'est que lorsque nous connaissons notre mal que nous pouvons espérer lui trouver un remède.
Qu'en pensez-vous ?
Manifestement, il a perdu la tête.
C'est ce que nous pensons aussi.
Heureux de vous revoir, Monsieur Lockhart. Signe de commotion cérébrale, système immunitaire affaibli. J'aimerais vous recommander un traitement. Voyez cela comme une purification de l'esprit, autant que du corps. Chez certains patients, cela provoque des visions. Mais pas d'inquiétude, ce ne sont que les toxines qui quittent le système.
Alors durant une bonne heure, hein, on redoute le film de Petit Malin fondé sur un twist, hein, aussi tordu que vain. Le syndrome Shutter Island est effleuré, mais A Cure for Life déjoue contre toute attente les pièges et artifices d'un cinéma postmoderne. Alors pour mieux renouer avec une sorte de classicisme à l'ancienne, hein, puisant allègrement dans les arcanes du cinéma gothique, notamment lors d'un dernier acte réjouissant et baroque, transgressant toutes les barrières du bon goût. Alors Gore Verbinski, hein, décidément, moi, je trouve que c'est un des meilleurs artisans hollywoodiens en activité, signe au fond une œuvre assez hors norme, non exempte de défauts, hein, mais à la direction artistique impressionnante. Le scénario ne s'embarrasse d'aucune vraisemblance, hein, à commencer par la justification de l'accident de voiture du début, et le film affiche un ventre mou à mi-parcours. Alors, une bonne demi-heure en moins, parce que le film dure quand même 2h30, hein, aurait peut-être été un peu aurait été judicieux, hein, à mon avis. Hein. Mais ces défauts évidents n'enrayent nullement le plaisir que procure, c'est-à-dire cure dans le Cure for Life, esthétiquement somptueux, grâce au magnifique travail du chef opérateur, hein, Boran Bozzelli, hein, un magicien de l'image qui est derrière les plus beaux films de Ferrara. Alors, les couleurs ternes, hein, tirant vers la blancheur immaculée d'un hospice aseptisé, offrent un contraste saisissant avec les audaces formelles de ce drôle d'objet. Alors, entre des décadrages, des reflets dans les miroirs, brusques envolées lyriques d'une caméra agile et plans picturaux infugaces, mais dignes de tableaux de la période romantique allemande. Alors, il y a chez Verbinski, ou chez les scénaristes, une érudition jouissive et gourmande. Alors, pas toujours bien digérée, mais salvatrice. Alors, après quelques errances au milieu du métrage, hein, à l'image du héros déambulant dans les couloirs glauques de l'Institut, le rythme s'affole et les idées fusent. A Cure for Life se transforme alors en film d'épouvante gothique excessif, mêlant adroitement sexe et violence avec une absence de retenue euphorisante. Alors, le cinéaste s'amuse comme un petit fou à rendre hommage à Mario Bava et Roger Corman, notamment pour ses adaptations de Po, en passant par L'Homme au masque de cire et l'abominable Dr. Phibbs. On attend par ailleurs à tout moment voir Vincent Price surgir, traverser même l'écran. Alors, l'intelligence du film dépasse largement celle du héros. Hein. Toutes les critiques assénant que le spectateur a 10 longueurs d'avance sur Lockhart ne sont pas fausses, mais cet aspect déceptif est aussi partie intégrante du projet. Car si nous, cinéphiles ou non, on se délègue d'un film fantastique qui transgresse la logique du réel, Lockhart, ne l'oublions pas, est une enveloppe vide, un pur produit du système capitaliste. Sa pensée se limite au gain, au profit. L'imaginaire fait partie ni de son vocabulaire, ni de son fonctionnement. Dès qu'il arrive en Suisse, il se retrouve déboussolé. Il est donc logique qu'il dénoue les fils de l'intrigue avec un certain retard, ayant du mal à accepter l'impossible. Alors, cette dimension ironique, hein, derrière laquelle se drape une brillante critique du consumérisme et de la société contemporaine, n'est pas la moindre qualité de cet excellent thriller gothique, à la fois humble et ambitieux, et assez bizarre au fond. Hein. Et puis, une vraie surprise, hein, à laquelle j'ajouterais une direction d'acteur impeccable, à commencer par la troublante, alors avec un nom prédestiné, je dirais, Mia Gott, qui avait été découverte dans Nymphomaniac. Mmh. Donc je conseille ce film vivement, malgré sa durée. Hein,
tout comme Nymphomaniac, d'ailleurs. Merci. C'est réjouissant de commencer par un film qu'on a apprécié, et ça va continuer avec Noce, et c'est la première interview de cette émission.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Noce, film de Stefan Strecker, est tiré d'une histoire vraie, celle de Sadia Cher, une Belge d'origine pakistanaise de 20 ans, abattue de 2 balles le 20 octobre 2007 près de Charleroi. Il s'agit d'un crime d'honneur. La jeune fille ne voulait pas se soumettre à un mariage arrangé avec un fiancé vivant au Pakistan. Pour laver cet honneur, la famille semble s'être donné le mot. Le frère l'a tué, tandis que la petite sœur retenait la victime. Alors, pendant le procès, le frère a affirmé qu'il aimait sa sœur, mais qu'il devait avant tout observer les règles d'un pays où il n'est pas né. Aussi, il est parfaitement normal dans la tradition de punir une femme qui déshonore. Cette affaire a bouleversé la Belgique et a connu donc des rebondissements. L'affaire a continué en 2012. Le réalisateur Stefan Strecker ne s'intéresse pas à reconstituer fidèlement l'histoire, mais s'en inspire. Toutefois, il n'a pas pu s'en écarter et a gardé les grandes lignes. Les parents sont commerçants, on y voit le frère, 2 sœurs et donc les parents. Alors, pour les besoins de la fiction, Sadia s'appelle maintenant Zahira et elle est plus jeune qu'elle. Elle a 18 ans, on voit une jeune fille intelligente, pas enfermée dans sa communauté. D'IVG imposé en mariage forcé, on voit les épreuves, les doutes que traverse la jeune fille et sa détermination à ne pas subir une loi d'un pays qu'elle ne connaît pas. L'enjeu n'est pas dans un questionnement entre modernité et tradition, vite dépassé, mais plutôt des écarts entre deux cultures et le prix d'une liberté qui ne peut s'accomplir sans qu'on la veuille contre les siens. Alors, le réalisateur parvient à ne jamais juger, chaque personne délivre ses raisons, alors que selon l'actrice principale Lina El Arabi, le metteur en scène était réputé pour en faire trop dans ses précédents films, il semblerait qu'ici, il soit resté sobre, tout en privilégiant un éclairage qui tend vers les tonalités rougeoyantes, mais peu de déplacements de caméra à l'horizon. Dialogue, situation et interprétation l'emportent. Nous écoutons, alors non seulement l'actrice de Noce qui livre une interprétation solide. Elle nous dira d'ailleurs dans cette interview qu'elle a eu l'impression de pleurer tout le temps sur le tournage, mais que le réalisateur n'aura pris que les instants qui précèdent ces moments. Et on écoutera aussi de larges extraits de ce film qui est monté comme un thriller bavard. D'autant que là, ça aurait été bien plus intéressant d'avoir le réalisateur. C'est une jeune actrice qui n'a pas forcément l'habitude des interviews. Et l'interview était un peu décousue. Donc, moi, ça m'a bien arrangé de trouver de larges extraits qui vont permettre de rentrer dans ce film, Noce, de Stefan Strecker.
Betty, si tu peux choisir. Tu devrais sur Internet.
Qu'est-ce qui a fait que finalement, vous vous êtes dit oui, ce rôle est pour moi?
J'ai beaucoup pleuré en fait en lisant le scénario. Après moi je pleure un peu pour rien, mais là c'était... Le scénario était déjà très très bien écrit, très très beau. Et parce que le rôle de Zahira était déjà sur le papier assez extraordinaire, quoi. Donc j'ai pas beaucoup, beaucoup réfléchi. Après c'est une problématique qu'on connaît tous, quoi. Donc, et qui nous concerne tous. Et puis c'est pas, en plus c'est même pas un truc sur le mariage forcé ou sur les traditions pakistanaises, parce que c'est un truc qu'on entend souvent. Non, c'est sur l'histoire d'une fille, à un moment T. En plus, c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc, c'est vraiment, vraiment sur une fille et sa famille. Et une fille qui va devoir choisir entre sa liberté et les personnes qu'elle aime le plus au monde. Donc je pense que rien que ça, déjà, on n'a pas besoin d'avoir vécu un mariage forcé pour comprendre ce genre de problématique, en fait.
De toute façon, je le savais. Et ta mère?
Franchement, on avait plus de chance avec mon père.
Elle t'aime?
Bien sûr qu'elle m'aime. Qu'est-ce que tu crois? Mon père aussi il m'aime, mais Amir, je te raconte même pas comment il m'aime. C'est pas ça le problème. Là, mon père, il rentre plus au Pakistan.
Comment ça?
S'il a promis sa fille et qu'il est pas capable de la marier, il est rejeté par toute la communauté. Il peut plus y retourner, c'est comme ça.
Ils peuvent pas s'en foutre un peu?
Non, ils peuvent pas s'en foutre. Si tu sauves pas les apparences, c'est mort. T'as perdu ton honneur, t'as tout perdu.
Faut pas s'écarter du fait que ce soit une tirée d'une histoire vraie. Nous, on en a pas trop entendu en France, mais en 2007, l'affaire Sadia Cher, c'était hyper connu. Enfin, je veux dire, nous, c'est un peu notre procès d'outreau à nous. C'était hyper connu en Belgique. Genre, tout le monde avait été choqué par ce frère qui avait tué sa sœur. Et en fait, Stéphane, lui, ce qui lui a donné envie de faire le film, c'était pas cette histoire en soi. Enfin, il l'a vu passer, il avait trouvé ça choquant. Non, c'est quand il avait entendu que le frère avait dit au procès « Vous savez pas à quel point j'aimais ma sœur ?» Et là, il s'est dit « Ok, je tiens un truc, en fait. » Parce qu'un frère qui tue sa sœur et qui dit qu'il l'aimait à la folie, c'est qu'il y a un truc, il y a un truc qu'il faut que je comprenne.
Tu sais que j'ai parlé à Imran?
Imran? C'est qui ça, Imran?
C'est mon futur mari, si t'es pas au courant. Un des cousins du bled, là, une des photos.
Tu lui as parlé quand?
Cette nuit, sur Skype. Maman m'a réveillée pour ça.
Et alors?
Et alors? C'était horrible.
Quoi, il te plaît pas?
Bah non, il me plaît pas. Évidemment qu'il me plaît pas.
Zahra, elles font comment, les autres?
Bah justement, je sais pas comment elles font, les autres. Et je m'en fous.
Tu te rends compte qu'il y a que toi? Il y a que toi qui résiste.
Bah ouais, je résiste. Bien sûr que je résiste.
T'as vu dans quel état était maman quand elle a su pour ta grossesse? Et à bout avec son cœur. Hein? Tu te rends compte que c'est ta famille, ça, Zahira? Dieu te regarde. Dieu nous regarde tous.
Je suis beaucoup plus à l'aise dans ce qui est drame que dans ce qui est léger. Et là, Zahira, il lui fallait de tout. Parce que sinon... Et en plus, Stéphane, au montage, a été très fort parce qu'il a gardé que des moments de larmes qui étaient... Parce que moi, j'ai eu l'impression d'avoir chialé pendant tout le tournage. Hein. Je chialais tout le temps, en fait. Et lui, il a pas pris les larmes, en fait. Il a pris que les moments où vraiment on était au bord. Et du coup, ça rend la chose encore plus forte. Parce que c'est pas à toi d'être ému, c'est au spectateur. Donc on s'en fout que tu... Du coup, c'est... Enfin, bref.
Et Ina? Regarde, Ina. Elle a l'air malheureuse? Zahira, elle est malheureuse, Ina? Prends exemple sur ta grande sœur pour ça aussi. T'as toujours pris exemple sur Ina pour tout. Mais là, pour ça, plus rien. C'est une faible, peut-être, Ina? Elle a pas de personnalité, Ina. Je te dis, il y a que toi. Il y a que toi.
C'est quelque chose qui revient souvent. Elle se pose la question de l'âme. Et notamment, à chaque fois, on lui dit, mais c'est pas un bébé, c'est pas... Enfin, voilà. Et on a l'impression que c'est plutôt ça, son problème. C'est un problème avec, peut-être, le divin, plus qu'un problème avec la modernité et la tradition, finalement, le personnage.
C'est une vraie croyante, quoi. Et d'ailleurs, ça montre encore plus à quel point c'est pas un film sur la religion, parce qu'elle continue de prier quand elle part recouler avec Pierre. C'est hyper crédible, en fait. Parce que ça aurait été faux de dire « Je fais un doigt à tout le monde, et puis je me casse, et puis Dieu, je m'en fous. » C'est pas vrai, en fait. Dans la vie, on n'est pas blanc ou noir, en fait. Elle aussi se pose des questions. C'est pas hyper simple. Évidemment, c'est un peu le principe du film. Mais je veux dire, même par rapport à d'autres choses, par rapport à Dieu, par rapport à... C'est pas que sa famille et son enfant, ou sa famille et son mariage. C'est aussi elle, son rapport avec ce qu'elle a fait. Avec... Rien n'est simple, quoi. Et c'est une vraie croyante. Mais c'est pas parce que je suis croyante que ça veut dire que je dois respecter vos traditions... Pour le coup, ça n'a rien à voir, quoi.
Je sais pas, je la comprends.
C'est votre truc, ça, hein? Comprendre les gens.
Vous avez tout compris, vous savez tout, vous avez raison. Mais nous, on est des fous, c'est ça.
Non, j'ai jamais dit ça, et je le pense pas en plus.
Tu vois cette rue? À ton avis, combien de femmes célibataires dans cette rue, hein? Combien?
J'en sais rien.
Rien que dans cette rue, il y en a au moins 15. 15 femmes célibataires rien que dans cette rue.
Et alors?
Mais alors, 15 femmes célibataires, c'est plus qu'au Pakistan. Ça n'existe pas de femmes célibataires au Pakistan. Vous croyez qu'elles sont heureuses, les femmes célibataires dans cette rue? Vous croyez qu'elles n'ont pas besoin d'une famille? Hein?
Ça vient faire quoi?
Ça vient faire que moi, je vous emmerde pas avec vos femmes célibataires. Elles sont malheureuses. Je les connais. Il y en a qui sont clientes. Vous faites ce que vous voulez avec vos femmes célibataires. Vos valeurs, vos traditions, vos coutumes. Vous faites ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas occupé de ma fille. Parce que c'est ma fille, c'est pas la tienne.
Voilà, vous avez entendu aussi Olivier Gourmet, hein, qui donc joue dans ce film Noce de Stéphane Strecker avec Lina El Arabi que l'on vient d'entendre dans Cinérama. Le film sort le 22 février.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Si le troisième long métrage, Dans la forêt, de Gilles Marchand peut sembler opaque de prime abord, il n'en est pas moins honnête et limpide quant à ses intentions initiales. Alors le prologue dévoile des enjeux de manière frontale. Le jeune Tom est en consultation chez une pédopsychiatre interprétée par la trop rare Mireille Perrier. Il lui fait part de son appréhension de partir en vacances chez son père, car il a le pressentiment que quelque chose va arriver. Alors la prémonition sert ici un personnage fort qui rappelle étrangement le jeune Danny dans Shining, référence écrasante mais subtilement redéfinie au cœur d'un film troublant et très oppressant pour qui a connu des situations ambivalentes avec la figure paternelle. Même pour les autres, hein, il suffit juste de se projeter. D'ailleurs, Gilles Marchand s'est inspiré, lointainement bien sûr, hein, de ses propres souvenirs d'enfance lors de l'écriture du scénario. Alors Tom et Benjamin partent donc en Suède retrouver leur père pour les vacances d'été. Ce dernier, personnage étrange et solitaire, adopte un comportement ambigu avec ses propres enfants. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Il est persuadé d'ailleurs que l'un de ses fils, Tom, hein, possède un don de voir des choses que les autres ne voient pas. Il se livre alors à Tom lors de la première séquence vraiment tétanisante. Assis sur le canapé, dans le noir, il avoue sur un ton neutre, presque dénué de vie, qu'il ne dort plus, plus jamais. Alors son visage reste dans la pénombre, avec ce seul plan, le réalisateur frappe fort et saisit la quintessence de l'effroi avec trois fois rien, un sens de l'économie qui rappelle le meilleur de la série B des années 40 et notamment les films de Jacques Tourneur comme La Féline. Alors puis une altercation avec un supérieur le prive de son travail, alors on ne sait pas s'il est licencié ou s'il a démissionné, on reste dans le flou. Du coup il propose à ses fils, ou impose, de passer quelques jours au nord du pays, en pleine forêt, dans une cabane isolée au bord d'un lac. Les enfants, ravis au début, vont vite déchanter, le comportement du père s'avérant de plus en plus inquiétant, puis irritable, puis, pour finir, assez agressif. À l'image, alors pas encore agressif, de cet échange pour le moins insolite.
Si vous pouviez avoir ce que vous voulez, n'importe quoi, qu'est-ce que vous demanderiez?
Je sais pas.
Tu t'es même pas posé la question une seconde, t'as répondu sans réfléchir. Une question, il faut qu'elle entre dans ta tête, que tu lui laisses le temps de toucher tous les recoins de ton cerveau. À ce moment-là, oui, tu peux commencer à répondre. Qu'est-ce que tu voudrais avoir le plus au monde?
Un
quoi?
Un Falcon, un jet privé. Pour faire le tour du monde, quand je veux, comme je veux. Et si on a un Falcon, ça veut dire qu'on est riche en plus.
Et toi, Tom?
Des amis.
Des amis? Oui, t'en as plein, des amis.
J'en ai pas plein.
Pas plein? D'accord, mais t'en as déjà beaucoup. Puis c'est pas compliqué à trouver. Et toi? Qu'est-ce que tu voudrais?
Moi, la vie éternelle. Ou alors cette forêt. Oui, cette forêt et cette maison. Et vous deux avec moi. Ici pour toujours.
Alors, en dépit de quelques problèmes de rythme, hein, et de certains personnages secondaires inutiles, hein, notamment le bref passage avec des hippies, je pense que c'était un peu pour meubler, hein, Dans la forêt est un remarquable thriller surnaturel, hein, qui utilise à merveille son décor. Alors d'abord accueillante, la forêt devient au fur et à mesure que le personnage du père s'assombrit de plus en plus anxiogène jusqu'à l'asphyxie. Alors cet aspect un peu film cerveau constitue le meilleur du film et rappelle, à toute proportion gardée, hein, les univers mentaux des films de Kubrick ou de Polanski, voire même de Barton Fink, hein, où l'hôtel était également une métaphore de la manifestation de l'activité cérébrale du personnage principal. Alors à la différence que tout est perçu ici par les enfants, en fait, hein, par les yeux des enfants et principalement par Tom. Alors, tant que le père ne constitue pas une menace, l'environnement est apaisant. Mais dès que les premiers signes de déséquilibre surgissent, les ténèbres enveloppent la nature qui deviennent subitement terrifiantes. Tom voit aussi un étrange personnage défiguré, une sorte de monstre tapis dans l'ombre qui révélera sa véritable nature ultérieurement. En adoptant constamment le point de vue des enfants, la mise en scène, sans aucune esbroufe, alors elle perd en spectaculaire ce qu'elle gagne en cohérence et en trouble. Le dispositif est très intelligent, le père reste une énigme, hein. Agit-il pour le bien des enfants? Est-il atteint d'une dépression? Est-il un pervers souhaitant faire souffrir volontairement ses gosses? Est-ce leur père, hein, aussi? Parce que la question, est même si c'est ironiquement, elle est posée dans le film à partir du moment où on accepte la dimension fantastique. Alors, baignant dans une lumière naturaliste un peu déstabilisante pour une œuvre aux frontières du réel, et doté d'une bande-son inquiétante, hein, de la musique très discrète et très réussie, au bruitage, hein, souvent flippant, Dans la forêt est une réussite, là où le cinéma français échoue souvent. Il se permet le luxe aussi de ne pas tout dévoiler, de garder une part de mystère. Entre récit d'apprentissage et conte horrifique, le film de Gilles Marchand, hein, qui avait réalisé Qui a tué Bambi, que j'avais trouvé déjà très bien, est l'une de des belles surprises de ce début d'année, et surtout révèle un jeune comédien magnifique, hein, Timothée Van Dorp, au jeu extrêmement nuancé qui rappelle celui du jeune acteur du Sixième Sens, allé Joël Osment. Alors ce n'est pas un mince compliment, hein. Et la filiation entre d'ailleurs l'univers de Shyamalan est parfois, ça y fait un peu penser en fait.
Eh ben c'est bien ça fait déjà deux films
que j'aime
apprécié.
Coup sur coup, je ouais. crois que ce n'était pas arrivé depuis des lustres pour moi.
Alors, on va passer à la deuxième interview de cette émission.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Alors, beaucoup de femmes se sont demandé ce que ça fait d'en avoir une, mais nous, Manu, nous en avons une. De quoi on parle?
Je ne sais pas. Je n'ose pas le dire, surtout.
Après Sous les jupes des filles, et c'est plus de 1,3 million d'entrées, Audrey Dana revient avec Si j'étais un homme en salle le mercredi 22 février. Le point de départ est le suivant. Qu'est-ce que ça peut faire pour une femme d'être dans la peau d'un homme le temps d'une journée? Comédie et fantastique sont ainsi convoqués dans un film qui veut s'affranchir de la morale. Alors on va écouter la réalisatrice et comédienne défendre son film aux côtés de la comédienne Alice Belaïdi, qu'on avait déjà vu dans L'Ascension, le film avec Ahmed Silla, qu'on a déjà chroniqué. Alors il faut savoir que normalement, c'est Marine qui devait parler de ce film. Elle en parlera un peu plus tard dans l'émission, dans une prochaine émission.
Je m'appelle Jeanne Clairet. Je suis architecte en bâtiment.
Vous êtes perdu ou quoi?
Voici mon collègue.
Un suppôt, une tisane et puis hop, on s'y met là, Jeanne. Hein.
Ma super voisine, Marcel. Et enfin, ma raison de vivre. Mes deux enfants et bien sûr, le papa qui va avec.
J'ai rencontré quelqu'un.
Enfin, presque.
Elle est enceinte. Je vais lui présenter les enfants.
Quoi?
Et on va prendre un avocat. Tant que je pensais qu'une garde alternée...
Pardon, j'ai...
Quand on imagine un instant, si on en avait une, ce que ça ferait, on s'imagine pas avec un torse d'homme et des poils et des grands pieds, quoi. On s'imagine juste avec l'attribut masculin en plus. Donc c'est parti de ce délire-là. Et puis ensuite, on s'est dit, pour qu'un sujet comme ça soit traité, que ce soit pas vulgaire et qu'on tombe pas, en fait, dans tout ce que je voulais éviter de graves lues, etc., il faut trouver à qui ça arrive. Et du coup, quand je disais on est beaucoup de femmes à avoir peut-être fantasmé de savoir 5 minutes, 1 heure, ce que ça pouvait faire, eh bien, pas Jeanne, c'est la seule. Et Jeanne, elle s'est définie à travers son mari et ses enfants. Et une fois que son mari la quitte et qu'il demande la garde alternée et qu'elle se retrouve une semaine sur deux sans ses points de repère, elle ne sait plus qui elle est. Et donc, c'est à cette fille-là, un peu naïve, qui a été vraiment élevée de manière très, très patriarcale, c'est-à-dire tu tiens ta place de femme, tu sers l'homme, etc. Forcément, ça va. Il y a des chances que ça lui fasse du bien. Et puis surtout, là, on a un boulevard de comédie. Donc, on avait le sujet et en trouvant à quel personnage ça pouvait arriver, on avait d'un seul coup l'équilibre pour éviter justement de tomber dans du super trash, du super graveleux. Voilà, le pitch est assez fort comme ça. Donc, nous, on a tenté d'être très élégant. Quoi.
Voilà. Alors, en fait, c'est apparu hier matin et en plus, maintenant, ça fait mal.
C'est un conte moderne et c'est un prétexte à raconter une toute autre histoire. pourquoi un conte ? Parce que l'envie première, moi, dans ce que j'ai envie de proposer quand je donne 2 ans de ma vie pour faire un film, c'est de divertir, d'offrir un moment de magie, une parenthèse, une bulle, quoi, d'ondes positives, de rigolades. Et puis, parce qu'on parle de contes modernes, de fables, évidemment, il se dit quelque chose. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale, parce que j'insiste beaucoup là-dessus. Chacun peut faire la sienne. C'est même le contraire. C'est une invitation à la tolérance, au respect de l'autre, à la différence.
Je crois que j'ai une bite.
C'est catastrophique.
Mais vous ne me rassurez pas du tout, là.
Ne paniquons pas, tout va bien, très bien, même.
Je sais pas ce qui m'arrive, mais je veux que ça s'en aille.
Et après, lève-la.
Une mère de famille avec une bite, c'est quand même très gênant.
Évitons la vulgarité. Hein,
en fait, tous les persos sont tirés au maximum. Justement, on a aussi, c'est ce que Audrey a eu envie de faire, c'est de rentrer dans les clichés et pour pouvoir les démonter après et jouer de ça. Donc le personnage de Marcel, il est dans ce cliché-là de femme d'air, sous des airs,
très forte, qui a besoin de rien et de personne. Et évidemment que si ça arrivait à Marcel, ce serait pas du tout le même film. Voilà. Moi, elle est pudique, Jeanne. Elle est pudique. Je veux dire, la première fois qu'elle doit aller aux toilettes, elle met des gants mappa.
Les femmes, tu vois, elles assument parce qu'elles n'ont pas peur.
Allez, tout ira bien.
Vous êtes sûr? Parce que vous avez l'air très inquiet quand même.
Du tout. Ah, du tout, du tout, du tout.
Oui, celui qu'on entend, c'est Christian Clavier dans « Si j'étais un homme », film de Audrey Dana, que l'on vient aussi d'entendre. Le film sort le 22 février comme « Lion » de Garth Davis, dont nous allons parler.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Voilà une machine à Oscar, à tel point que c'en est un argument commercial et que les 6 nominations sont annoncées sur l'affiche. Avec ça, on aperçoit la trogne d'un petit garçon éclairé de manière impeccable. Lyon, je veux dire Lyon finalement en français, mise sur l'émotion. Lyon, réalisé par l'inconnu australien Garth Davis, raconte une histoire vraie, celle de Saru, un petit gamin de 5 ans d'une province indienne qui est monté une nuit dans un train pour n'en redescendre que 1500 km plus loin à Calcutta. Alors, son plus gros problème à Saru, c'est qu'il est incapable d'indiquer à qui que ce soit où il habitait ni dans quelle direction. En tête, il n'a que le nom d'un village, celui de sa mère, son frère et sa petite sœur. C'est maigre. Aussi, ce qui pouvait arriver de mieux à Saru, eh bien, c'est une adoption. 25 ans plus tard, on le voit épanoui, devenu un citoyen australien. Pourtant, il n'a rien lâché de son passé. Mais heureusement, à cette époque, Google Earth entre dans la vie des humains. La cartographie des espaces terrestres rend possible une exploration du monde entier de chez soi. Le jeune adulte, de plus en plus mal avec son passé, va donc tenter de retrouver son village à partir du service mis en place par Google. Un seul élément peut aider Saru, une image de la dernière gare qu'il a connue, un réservoir aperçu avant de monter dans le train.
Je commence à me rappeler.
Saru.
Nous sommes très fiers de toi, mon fils. La vie que j'ai oubliée. J'avais une famille. Une mère.
Tcha bacha.
Un frère. Je vois encore leur visage. Il faut que je retrouve ma maison.
C'est donc en deux temps qu'on nous raconte cette histoire. Il y a d'abord l'Inde avec le jeune Saru, aux prises avec un pays, une ville, des gens beaucoup plus grands que lui. Une vision filmée à hauteur d'enfant et toujours avec une lumière publicitaire au ton jaune-orangé. La misère en carte postale passe toujours mieux. La plastique et le jeu du petit Indien concourent à suivre plaisamment les obstacles qu'il doit franchir. Alors qu'on nage dans un mélo, eh bien le réalisateur décide de ne pas s'apesantir, mais mue son personnage d'une force souterraine qui nous permet d'imaginer que son destin n'est pas de finir dans la rue, ni perdu dans un orphelinat, et pas davantage pris dans un trafic d'enfants qui sont autant de possibilités offertes par le scénario. Là où le film gagne en pesanteur, c'est dans la partie australienne et adulte où Saru, interprété par Dev Patel, va questionner ses souvenirs, son passé et son identité, tout en tentant de ménager sa famille d'adoption australienne, avec une mère interprétée par Nicole Kidman qui est mélancolique une séquence sur deux. Saru, adulte, souffre de l'arrachement à sa famille et il y a quelques scènes poignantes nous ramenant dans le mélodrame comme celle qui l'oppose à sa mère adoptive ou à sa copine, interprétée par Rooney Mara. Esthétique, lorgnon vers l'image publicitaire pour mieux se concentrer sur l'histoire poignante, flashback alimentant la détresse de Saru adulte, clic sur Google Earth en guise de suspense, voilà quelques tics de mise en scène qui donnent au film un cachet de mélodrame aseptisé et qui le conforte dans son statut de prétendant aux Oscars, même si je pense qu'il n'en obtiendra aucun. Lyon de Garth Davis, eh bien, sortira le 22 février.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on a peut-être le temps de parler de Seul, mais très rapidement.
Très rapidement. Hein. Seul est l'adaptation d'une BD à succès pour enfants, hein, signée Fabien Wellman et Bruno Gazzotti. Hein. La transposition, hein, tout en étant relativement fidèle, change légèrement la donne. Alors que sous le coup de crayon de Gazzotti, les jeunes héros étaient des enfants, ils prennent vie à l'écran sous les traits d'ados, public davantage susceptible de se déplacer, surtout au vu de l'aspect sombre du récit. Alors en gros, c'est un groupe de jeunes qui se retrouvent du jour au lendemain seuls pour une raison inexpliquée. Tout le monde a disparu, les 5 rescapés vont tenter de comprendre ce qui est arrivé. Alors, cinéaste plutôt intéressant à qui l'on doit le flippant Hill et la rom-com correcte 20 ans d'écart, David Moreau réalise un teen movie inquiétant et prenant, mis en scène avec un vrai savoir-faire. Le twist attendu est évidemment convenu, les personnages trop typés et l'humour potage volent parfois un peu bas, mais ça fonctionne plutôt bien, on prend plaisir à cette sorte, on va dire, de club des 5 fantastiques qui annonce évidemment une suite.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Aujourd'hui, nous avions 2 interviews. La semaine prochaine, nous n'en aurons aucune, mais des chroniques, Manu.
Alors, Split, de le nouveau film de Shyamalan, évidemment.
Et puis, on ira peut-être voir le documentaire sur David Lynch.